Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être par l'association François Petit et l'association Génération avec une pléiade de partenaires. Alors pendant 2 jours, vous pourrez retrouver différents ateliers, conférences, tables rondes, animations, expositions ou villages santé sur différents thèmes. Avec une première partie sur ça, car il y a beaucoup d'associations partenaires ici sur divers sujets et notamment sur ce plateau radio, car nous avons avec nous Héloïse Coste, directrice de la DIL de la Lozère, qui va me présenter sa maquette logement adapté. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Nous avons Mathilde Minet qui est médecin généraliste, mais pas que, beaucoup de casquettes. Donc bonjour, je vous laisserai tout à l'heure vous présenter vos autres casquettes. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Et nous avons également Laure Mallet-Leprince qui est une toute nouvelle maison de santé qui a à peine 2 ans, c'est ça ?
C'est tout à fait ça, en effet, oui. Le projet qui a été initié par le docteur Mathilde Minet donc, date voilà, de 2019, donc fin 2019. Elle a obtenu la labellisation donc avec l'ARS et la CPAM de la Lozère.
Un regroupement de professionnels. Mathilde Minet, c'est la solution dans...
C'est hyper heureux, mais je crois pas que. Je crois que c'est la solution un peu sur tous les territoires. C'est la solution parce que c'est un mode d'exercice qui devient essentiel, c'est-à-dire que nous sommes formés en équipe. Il paraît au sol alors qu'on a été formés à travailler en équipe. Et donc c'est la continuité de nos études. Et c'est une manière épanouissante de travailler en étant coordonnée. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que travailler en équipe, c'est bon pour la santé.
On voit d'ailleurs, enfin, on a du corps de santé, des personnels qui sont fatigués, beaucoup de personnels qui sont partis, qui manquent. C'est peut-être encore plus vrai dans notre territoire. C'est donc...
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que sur tous les territoires, c'est pareil. C'est vrai qu'en Lozère, on a des particularités, bien sûr, où on a peut-être encore moins de professionnels. Bien que, on résiste, on est là. Et puis, du coup, je pense que ce mode de coordination, c'est intéressant. Et en plus, dans les territoires comme les nôtres, on fait preuve d'innovation sur les territoires. Et on est content de pouvoir le faire et de développer les choses pour que notre territoire soit opérationnel sur le plan sanitaire.
Laure Mallet-Leprince, quels sont les corps de santé qu'on retrouve dans cette maison ?
Alors la maison de santé de pluriprofessionnelle de Mende, elle regroupe actuellement 27 professionnels de santé et on a une dizaine de professions qui seront présentes, un médecin dermatologue, des infirmiers, des orthophonistes, une ergothérapeute et des masseurs kinésithérapeutes et...
biologiste.
Voilà. Je ne voudrais fâcher personne en ayant oublié quelqu'un, j'ai pas la liste sous les yeux. Mais on voit à quel point voilà, ça permet de regrouper vraiment différents corps de métier et de travailler de façon à la fois pluriprofessionnelle.
Mais aussi en Lozère ou ailleurs d'ailleurs ?
Si, bien sûr. Alors, c'est difficile de dire une spécialité en particulier, hein, mais ce qui change en fonction des années, etc. Après, c'est vrai que le fait d'être une structure et pas des professionnels indépendants, ça nous permet quand même de créer des liens avec d'autres structures un peu plus loin pour avoir, pourquoi pas, des partenariats sur des expertises. Nous, par exemple, ça me fait penser à la maison de santé. On avait organisé de l'appui de médecins néphrologues pour nous aider dans certains dossiers qui étaient plus complexes. Et le fait d'être une structure et d'être coordonnée, déjà, ça permet d'être coordonnée avec d'autres structures et d'autres entités qui ne sont pas forcément présentes immédiatement là, sur le territoire.
Héloïse Coste, on va parler également avec vous d'autonomie. C'est un des thèmes de ce forum. Adapté. Cette maquette qui est à l'échelle, hein, qui est à l'échelle, elle vient nous expliquer quoi ? Que l'on peut rester chez soi même en étant âgé et un peu moins autonome ?
Que l'on peut rester chez soi, c'est le rêve et le souhait effectivement de nombreux Français et de nombreux Lozériens. Mais pour ça, ça s'anticipe. Et en fait, nous, toute notre idée, notre projet à travers cette maquette, c'est vraiment de sensibiliser les propriétaires sur l'importance d'anticiper les besoins futurs en adaptant leur logement. Et quand on parle effectivement de ce grand mot « adapter son logement », on pense souvent à mettre une douche à la place de la baignoire ou à mettre un monte-escalier. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a aussi des choses simples qu'on peut commencer à faire pour prévenir effectivement les risques de chute, parce qu'on sait que c'est le contrôle des professionnels, mais c'est souvent, voilà, quand il y a une chute, qu'après la question peut être remise en question. Donc nous, vraiment, l'idée, c'est de sensibiliser à ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, d'essayer de s'interroger sur son logement actuellement. Est-ce que mon atelier déjà pour présenter cette maquette? Et voilà, 80% les gens nous disent, non, j'ai conscience que mon logement, il y a des choses qu'il faudrait adapter, qu'il faudrait améliorer. Mais on se dit toujours qu'on a le temps, que ça peut attendre, etc. Donc voilà, on essaye de dire, non, plus tôt c'est fait, mieux ça sera, plus facile sera votre maintien à domicile et plus longtemps vous pourrez rester chez vous dans de bonnes conditions.
Donc on peut venir vous voir concrètement pour vous demander ces conseils, de l'aide, que ce soit de l'aide en donnant quelques idées que ce soit, ou même peut-être en étant aidé financièrement pour faire des travaux. J'imagine qu'il doit y avoir des subventions possibles.
Exactement. Alors, ce projet de maquette, on ne l'a pas eu nous tout seuls à la DIL. Je veux rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et à l'intercommunal d'action sociale de la Lozère, grâce à un financement de la CFPPA, la conférence des financeurs. Et effectivement, l'idée, c'est au-delà de la sensibilisation, de l'activité, de l'animation qu'il peut y avoir autour de la maquette, c'est de proposer à la suite de ça des conseils. Donc, à la fois des conseils techniques par le biais de l'architecte conseil du CAUE, mais également des conseils juridiques, parce que qui dit adapter son logement, des fois, veut dire qu'il faut qu'on demande une autorisation à la copropriété, une autorisation à son bailleur, une autorisation à la mairie en fonction des travaux. Donc on va aussi faciliter ces démarches-là à la DIL. Et bien sûr, ce qui est un peu le nerf de la guerre aussi, des conseils financiers, parce que c'est des travaux qui peuvent... certains en tout cas être coûteux, et pour les ménages modestes ou très modestes, il y a des dispositifs d'aide financière, il y a également des dispositifs d'avantages fiscaux qui peuvent être mobilisés, donc nous on est là pour informer sur tout ça.
On va revenir, on va en parler dans quelques minutes. Pour pouvoir rester à domicile et rester autonome, il faut être en forme, il faut pouvoir réussir à vivre seul ou même avec des aidants, on peut être aidé. Il y a différentes mesures pour prévenir sa santé finalement, Mathilde Minet.
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'attention est particulièrement portée à la prévention et de plus en plus. Et c'est vrai que que ce soit dans les maisons de santé, dans les CPTS aujourd'hui, on œuvre vraiment pour qu'il y ait une prévention de l'autonomie. On s'engage vraiment sur ça. Et alors, c'est très intéressant la présence d'Héloïse aujourd'hui parce que, effectivement, dans la prise en charge globale du patient, il y a tout le côté médical, mais il y a tout le côté autour de prise en charge globale du patient. Et c'est vraiment avec toutes les structures qui sont autour et des forums comme ici, c'est important, ça permet de se rencontrer et de travailler sur la prise en charge. Alors bien sûr, la prise en charge du patient, c'est pas que traiter avec des médicaments quand le patient est malade, c'est vraiment prévenir. On sait que là, en ce moment, il y a le professeur Grégory Nino qui intervient sur les interventions non médicamenteuses. Il y a beaucoup de choses qui sont en place. On voit des études qui apparaissent comme l'étude ICOP du gérant Toupol de Toulouse sur la prévention de perte d'autonomie. Je crois que vraiment les mesures préventives pour gérer cette perte d'autonomie chez les personnes seniors et même dans le handicap, il faut vraiment qu'on s'y penche et qu'on n'attende pas que ce soit rédhibitoire et qu'on garde les patients au maximum à domicile avec des actions comme celle-là.
Quand il y aura une chute d'une personne qui va lui dire il faut aller voir la DIL et les bons conseils pour adapter son logement, pour y faire attention, on pourra donner quelques conseils tout à l'heure d'ailleurs.
Exactement, et c'est vrai qu'on y pense peu, mais les liens entre l'habitat et la santé sont importants. Alors aujourd'hui, on parle effectivement plutôt de l'aspect perte d'autonomie lié à l'âge ou lié au handicap. Mais effectivement, les liens sont forts. On parle aussi des logements qui sont indignes, dans lesquels il peut y avoir des risques pour la santé ou la sécurité, de l'humidité qui peut développer. Effectivement, on peut parler aussi de suroccupation. Alors nous, on est peu concernés, voire pas concernés en Lozère, mais tous ces éléments-là. Il y a aussi les logements ou les peintures qui contiennent du plomb, peuvent avoir des effets sur la santé. Donc il y a des liens, effectivement, qui existent. Et il y a des études de plus en plus qui étudient ces phénomènes. Et donc il y a peut-être effectivement des partenariats à envisager, finalement.
Eh bien voilà, c'est pour ça que je vous invitais ensemble, tous les trois.
Bien vu,
c'est ça. Alors, on parlait de soins non médicamenteux. J'aime pas trop ce terme d'être à la mode, mais on a l'impression que ça revient sur le devant de la scène, ou du moins que ça vient.
ça vient, mais c'est pas si nouveau que ça. Hein. Enfin, je sais que moi, je suis maître de conférence à la faculté à Montpellier, et donc on organise tous les ans un congrès sur les interventions non médicamenteuses depuis plusieurs années. Et c'est vrai que, et puis on fait même des cours aux étudiants sur ces thématiques-là, donc c'est quelque chose qui reste quand même important dans notre formation. Maintenant, c'est sûr que c'est peut-être pas le plus simple à mettre en place. C'est pas forcément dans les habitudes en fait de prescription des soignants. On voit quand même des professions et des structures se développer, comme par exemple les infirmières azalées dans les maisons de santé, qui sont vraiment sur la promotion de la santé, dans la prévention. On voit des programmes d'éducation thermée sur l'éducation thérapeutique, où c'est vraiment le patient qui est au cœur de sa prise en charge et qui modifie ses habitudes pour justement être dans la prévention des compliqués. Pas une idée nouvelle, mais qu'elle met un petit peu de temps à se mettre en place, le temps que tout le monde soit formé, que les mentalités changent un peu. Et puis, parfois, dans les patients, quand on leur diagnostique une maladie et qu'ils partent sans ordonnance de médicaments, eh ben non.
Et alors là, c'est un mal français.
Mais voilà. Et je crois que petit à petit, on va y arriver et qu'il faut qu'on comprenne l'importance qu'ont toutes ces interventions à côté de la thérapeutique médicamenteuse.
Mais du coup, je me dis, il me semblait avoir entendu qu'il y avait justement des expérimentations où en fait on prescrivait sur l'ordonnance le fait de boire ou de faire de l'activité, et que rien que le fait que ce soit noté sur l'ordonnance, ça pouvait avoir plus de dire, ce qui paraît un peu étonnant. Mais
exactement, on peut le prescrire, on le prescrit. Alors souvent les patients sont assez en disant pourquoi vous m'avez, parce que c'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce qui va être important pour votre santé. Mais voilà, c'est en train de changer. Voilà. C'est progressif, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On y arrive, et puis c'est important les jours comme aujourd'hui pour pouvoir en parler.
Et puis également aussi, ça peut être intéressant de penser au sevrage tabagique, par exemple, qui peut aussi être le fait de reprendre son confort respiratoire, de reprendre sa santé en main. Et puis l'alimentation aussi, qui bien sûr peut être vécue comme un soin. Qui est notamment en prévention. C'est important de connaître et d'acquérir les bases de ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire et de savoir ce que c'est. Mais ça peut être aussi un soin en fait. Et c'est pas médicamenteux.
Justement, on est en plein dans le mois sans tabac qui démarre ce lundi. On peut en dire un mot?
Alors oui, tout à fait. Donc le mois sans tabac, ça a lieu au mois de novembre, mais en fait ça peut avoir lieu toute l'année. Hein. C'est juste un focus qu'on fait à ce moment-là de l'année, mais on essaye d'accompagner les patients et les usagers tout au long de l'année. Donc c'est vrai que nous, au sein de la maison de santé, on a décidé de faire surtout de la communication, si les gens ont décidé de franchir le pas, de leur donner les contacts, les personnes ressources, les sites web, ça dépend, chacun peut avoir une sensibilité, plutôt aimer passer un coup de fil ou alors plutôt aimer chatter sur Internet, donc ça va dépendre de chacun. Mais l'idée, c'est déjà, si la personne est au stade de prise de conscience, c'est déjà un grand pas. Et donc c'est vrai que ne serait-ce communiquer dessus, on communique aussi sur le site Internet, sur notre page Facebook, les professionnels qui le souhaitent pourront porter aussi le badge. L'idée, c'est déjà de donner une visibilité pour que ça puisse aussi parler à chacun et si possible que certains puissent sauter le pas.
C'est bien, c'est un bel exemple, c'est une vraie combinaison entre soins qui peuvent être médicamenteux avec des patchs nicotiniques et autres, et également un travail à faire sur soi-même pour finalement réussir à arrêter la cigarette.
Tout à fait.
Oui, complètement, parce que surtout qu'on sait que c'est pas le patch ne fait pas tout, que c'est vraiment un travail sur soi. Donc c'est vraiment la combinaison des différentes thérapeutiques qui va être la ressource pour parvenir à ce sevrage. Hein. Donc, c'est vrai que c'est important.
Moi, j'avais testé effectivement les supports, ça n'a pas en lien avec mon sujet, mais quand j'ai arrêté de fumer, je m'étais effectivement inscrite sur le site, je ne sais plus, Info Tabac Service, comment ça s'appelle. Et du coup, tous les jours, je recevais un mail qui me donnait des conseils et je me sentais finalement accompagnée dans ma démarche et ça m'avait servi. En plus, effectivement, des compléments nicotiniques que j'avais pu prendre, etc. En tout cas, dans mon sevrage. Et j'ai pas repris. Et ça fait...
Grâce au mois sans tabac.
Ça fait 8 ans.
8 ans.
2013.
Félicitations.
Félicitations.
Ouais, bravo.
On a pris le bon exemple, c'est parfait. Super.
Donc on peut aussi appeler la DIL pour arrêter la cigarette.
Pas du tout, mais je renverrai vers la maison de santé.
Les soins non médicamenteux, on pense souvent à tout ce qui est huiles essentielles et autres. Mais finalement, ce n'est pas que ça. Vous parliez d'ergothérapeutes qui sont au sein de votre cabinet, enfin de votre maison, pardon, de santé. Ça fait partie des soins non médicamenteux, l'ergothérapie, finalement, ou pas?
Alors, peut-être faire pas. Partie des soins... Alors, c'est des interventions non médicamenteuses, parce que forcément, quand on va prévenir... la perte d'autonomie, quand on va améliorer le quotidien grâce à des rééducations en ergothérapie, forcément ça va améliorer la qualité de vie du patient. Maintenant, c'est plutôt pourvoyeur d'interventions non médicamenteuses sans en être une, effectivement. Mais après, les interventions non médicamenteuses, on en a dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être sous ce terme-là. Alors, c'est vrai que, oui, vous dites peut-être des huiles, etc., mais il y a beaucoup de choses, parce que l'intervention non médicamenteuse, ça peut partir... C'est toute l'hygiène de vie, en fait, qui est intervention non médicamenteuse, de l'alimentation, de l'activité physique, de tout ce qui peut prévenir de la perte d'autonomie et d'amélioration de la santé.
Donc, c'est quoi ? Concrètement, faire du sport, marcher tous les jours, bien manger... Bien se reposer.
Adapter son temps de sommeil, évidemment.
Adapter son temps de sommeil, tout ce que... Oui, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'autre ?
Penser à son temps passé devant les écrans, la sédentarité, oui. Tout ce qui est rester dans un fauteuil à faire de la couture. Alors, c'est très chouette, mais c'est de la sédentarité. Être sur des mots croisés sur une table, donc c'est un bon moment, mais c'est de la sédentarité. Donc, tous ces temps-là, il faut aussi les compenser par un minimum d'activité physique, prendre les escaliers, enfin en fonction des possibilités locomotrices de chacun. C'est des petits efforts à faire, aller acheter son pain à pied plutôt que de prendre la voiture si on a un véhicule. Évidemment, ça se fait à la mesure de chacun et il y a des professionnels qui peuvent conseiller là-dessus également, bien sûr.
J'ai vu que ça avait baissé le nombre de pas à faire par jour pour rester en forme, que c'était descendu à 4000 pas.
Ah.
Ils se sont rendus compte que... Sur 6 mois, je crois, sur je ne sais pas combien de personnes, ou même peut-être plus, que finalement 4000 pas étaient suffisants par jour pour maintenir une bonne forme physique.
Mais ils ont dû préciser qu'il fallait que ce soit régulier, par contre.
Oui, oui.
Tous les jours.
Tous les jours. Tous les jours. Qui peut le plus peut...
C'est vrai aussi. On revient sur cette maquette logement adapté. Quels conseils on peut donner pour adapter son logement facilement ?
Alors, la première, c'est effectivement la phase de diagnostic, donc d'être réaliste en fait sur l'état de son logement actuellement. Et le premier conseil qu'on donne, c'est vraiment de désencombrer. On se rend compte souvent quand même chez les personnes vieillissantes que les logements sont très encombrés. Alors forcément, on a accumulé plein de choses. Donc nous, vraiment, le premier conseil qu'on donne, c'est enlever les tapis, les fils téléphone, etc., qui peuvent traverser les pièces, enlever les petits meubles ou guéridons qui bloquent l'ouverture totale de la porte, etc. Vraiment, désencombrer. Ensuite... améliorer l'éclairage, ça aussi effectivement, on voit que quand le logement est mal éclairé, il y a un risque plus important de chute ou de s'entraver, donc vraiment repeindre dans des couleurs claires et améliorer l'éclairage. Troisième conseil, ça va être d'aménager, donc des aménagements relativement simples, mais de modifier des fois le sens d'ouverture d'une porte, par exemple, je pense notamment aux portes des salles de bain ou des toilettes, ça va permettre effectivement d'y accéder beaucoup plus facilement, et ça peut permettre en cas d'intervention notamment des pompiers, de pouvoir intervenir beaucoup plus facilement, de mettre une rampe ou même deux rampes dans l'escalier pour pouvoir se tenir, ou dans l'escalier extérieur, ce sont des aménagements relativement simples, et peu coûteux, qui vont permettre vraiment de faciliter la vie à la maison, de faire en sorte que dans la cuisine, par exemple, les ustensiles qu'on utilise soient facilement accessibles. Et même si on avait pris l'habitude de monter sur la chaise pour attraper régulièrement le plat au-dessus, maintenant on descend ce plat-là et on évite de monter sur la chaise ou sur le petit tabouret. Voilà, des choses simples, mais auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent entraîner effectivement des risques. Et après, effectivement, il y a les travaux d'adaptation plus lourds et plus coûteux, d'adaptation complète d'une salle de bain où on va enlever la baignoire, mettre une douche vraiment extra plate. Et là, c'est pareil. Si on envisage ces travaux, ben on va jusqu'au bout. Donc, on va mettre là aussi une poignée pour se tenir, éventuellement un siège de douche, et on met pas la chaise de jardin en plastique dans la douche. Parce que ça glisse, et là, voilà, on croit bien faire et...
Merci.
Voilà, donc c'est vraiment d'aménager complètement, et au moment où on fait les travaux, ben on en effectivement jusqu'au bout. Si on s'en sert pas, tant mieux, mais au moins s'il y a besoin, c'est déjà prévu. Idem, le plan incliné pour accéder à sa porte d'entrée, la petite caméra au portail pour éviter d'avoir à sortir et voir qui c'est qui vient nous rendre visite, de pouvoir ouvrir à distance, le plan incliné, etc. Donc là, on est sur des aménagements un petit peu plus lourds, qui ne sont pas la priorité et qui devraient intervenir à la fin un peu de ce parcours et pas au moment où il y a un accident de la vie, quoi.
Voilà, des conseils concrets pour adapter son logement. Dans l'actualité de la DIL, on le rappelle vite fait, ce lundi 1er novembre, c'est le début de la trêve hivernale.
Tout à fait. Le début de la trêve hivernale pour les expulsions locatives et les coupures d'énergie. Donc du 1er novembre au 31 mars, il ne peut pas y avoir d'expulsion ni de coupure d'énergie. Et il doit y avoir même un rétablissement de la fourniture d'énergie pour les personnes qui auraient été coupées ces derniers jours ou semaines. C'est un moment important, effectivement. C'est important de protéger les citoyens les plus fragiles, qui ont au moins un toit et de l'électricité pendant ces périodes hivernales. D'autant plus en Lozère où l'hiver est rude, on le sait, ça va arriver. Par contre, ce qu'il faut, c'est effectivement profiter aussi de ces quelques mois de répit pour essayer de trouver des solutions. C'est jamais trop tard pour trouver des solutions, que ce soit des solutions amiables, des solutions de relogement, des solutions même judiciaires, des délais de grâce qui peuvent toujours être demandés. Donc c'est jamais trop tard pour se mobiliser si vous avez des difficultés liées à votre logement. Profitez-en, vous êtes plus serein, il n'y a pas de risque d'expulsion immédiatement, mais venez vous renseigner à la DIL pour qu'on puisse mettre à profit ces semaines et ces mois à venir pour que au printemps ce soit plus facile.
La maison de santé est située où, Amande, déjà?
C'est une très bonne question, parce qu'en fait, une maison de santé, c'est un réseau, c'est pas un lieu.
Ah, voilà. J'ai fait exprès.
Non, mais tu avais raison. C'est exactement la bonne question.
Non, je suis complètement trompée.
Il est dans le plat voilà. Au bon moment.
C'est ça.
Non, voilà. C'est important de rappeler qu'une maison de santé, en fait, on appelle maison de santé, mais c'est un réseau. C'est-à-dire que nous, on est une maison de santé multisite, donc chacun est dans son local. Et ça ne nous empêche pas de travailler en réseau et d'avoir des projets communs, des actions communes. Et c'est pas le bâtiment qui fait la maison de santé, c'est vraiment le réseau et le travail en coordination. Je sais pas, peut-être je vais laisser Laure rajouter si jamais tu...
Alors en plus, en effet, du bâtiment socle, donc on appelle un bâtiment socle, voilà, le bâtiment qui pourrait en effet accueillir plusieurs professionnels de santé, hein, qui est en projet. Mais en dehors de ça, la coordination des soins, elle se fait par le biais de l'information, de la circulation de l'information, aussi des transmissions d'informations entre les professionnels de santé. Alors bien sûr, ce sont des données de santé. Donc il y a une sécurité autour des données de santé, des dossier patient. Le patient est informé sur le fait qu'on puisse, entre professionnels de santé, accéder à des...
Notamment sur les réunions de concertation pluriprofessionnelles ou quand on a des difficultés sur certains dossiers, on demande au patient si on peut présenter le dossier aux autres professionnels pour essayer de faire avancer un peu les choses. Et souvent, ils sont contents. Après, ils disent oui, parce que c'est la force du groupe, c'est-à-dire que le fait d'être à plusieurs, ça fait avancer les prises en charge.
C'est tout l'intérêt aussi. Et cette coordination, elle se fait aussi donc par le biais de ces réunions, donc de concertation pluriprofessionnelle, entre autres, et puis de missions de santé publique, en fait, sur lesquelles les professionnels de santé se sont engagés sur 5 ans. Une de nos missions de santé publique, c'est la vaccination, donc c'est promouvoir et faire en sorte d'améliorer la couverture vaccinale, donc de façon très large. Et puis l'éducation thérapeutique du patient, donc dans laquelle les professionnels de santé de la maison de santé sont en train de se former pour pouvoir proposer cette façon de prendre en charge aussi diverses pathologies et divers groupes de patients, entre autres.
Voilà, et dans l'actualité, il y a aussi la vaccination contre la grippe qui arrive. Ne pas hésiter.
Exactement. Donc la maison de santé Mende-Lozère a porté le centre de vaccination contre la Covid. Et donc on continue à dire que le centre est toujours ouvert, qu'il ne faut pas hésiter à continuer à se vacciner parce que on est en retard sur les moyennes nationales et on a vu qu'on n'est pas à l'abri de que ça reparte. Et ça ne doit pas être un frein à la campagne vaccinale contre la grippe, puisqu'on peut faire les deux en même temps, où il n'y a pas de minimum entre le vaccin contre la grippe et contre la Covid. Donc il faut vraiment se faire vacciner à l'amorce de l'hiver, c'est vraiment important.
Merci beaucoup, mesdames. Il est déjà quasiment 10h30. Je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'est à l'image de ce forum qui invite beaucoup d'associations sur divers domaines. Je vais vous laisser en direct avec les informations locales d'Adèle Chiron. Je vous retrouve à 11h pour un nouveau plateau radio. On va encore parler de santé, d'handicap, d'aidants familiaux, de bien des thèmes. Merci à vous trois d'être venus au micro de 48FM.
Merci.
Merci.
Et on vous attend à l'espace événement Georges Fraîche pour la suite de cette journée. Et nous sommes toujours en direct de l'espace événement Georges Fraîche au forum Santé Handicap Senior organisé par l'association François Petit et l'association Génération et une pléiade de partenaires pour ce second plateau. Nous avons avec nous Grégory Nino pour évoquer les soins non médicamenteux et la société nouvellement créée NPIS. Bonjour. Voilà, je vous demandais de vous rapprocher chacun des micros, qu'on vous entende bien. Nous avons également Patrick Charon, professeur de sport du service départemental Jeunesse et Sport Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, nous avons Yves Pérousse de l'association Plantes et Santé Gévaudan. Bonjour.
Bonjour.
Qui est par ailleurs aussi directeur adjoint du Clos du Nid, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, donc on va parler dans cette émission de soins non médicamenteux, de filières, de santé, sport, d'éducation, bref, un large panel qui représente un peu ce qu'on peut retrouver ici lors de ce forum. Je vais peut-être commencer avec vous, Yves Pérousse, sur cette association Plantes et Santé Gévaudan. C'est une association nouvellement créée, c'est ça ?
Exactement, elle a été créée au mois de mars 2021 avec pour objectif de structurer une filière sur l'ensemble du département et plus particulièrement sur le pays du Gévaudan pour allier tous les acteurs de la filière plantes et santé depuis la graine, sa culture, sa transformation jusqu'à sa consommation dans un but de santé.
D'accord. Comment a émergé cette idée de création de cette filière ?
Alors c'est le PETR, Pays du Gévaudan, qui a fait des études et qui s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel sur le territoire pour créer cette filière, puisque le Pays du Gévaudan a la particularité d'avoir une culture déjà qui autour des plantes. Donc traditionnellement, la cueillette des plantes est très présente et l'utilisation notamment dans un but alimentaire. L'agriculture qui est extrêmement présente et le volet santé avec le médico-social et le handicap en particulier.
Grégory Nino, ça vous parle les plantes, j'imagine ?
Évidemment.
Les soins non médicamenteux, on en parle de plus en plus en ce moment, mais ces soins non médicamenteux, et finalement, c'est pas uniquement des plantes. Hein. On est d'accord ?
Exactement. Je crois que la notion de médecine douce aujourd'hui, de médecine naturelle, de thérapie alternative, amène à un besoin de définition, de clarification. Et de clarification, notamment effectivement de la phytothérapie ou des plantes, il peut y avoir les huiles essentielles, les tisanes, etc. Tout l'enjeu est de pouvoir différencier finalement des pratiques qui sont fondées sur la science et dont on va compléter potentiellement des médicaments. Donc 1 plus 1 peut faire 3 dans certains cas de figure. Et à côté, des pratiques qui sont tout à fait ésotériques et sur lesquelles il n'y a aucune science. Donc oui, les interventions non médicamenteuses, je vais appeler INM, sont différentes de ces médecines alternatives.
Voilà, de médecine douce, naturelle, complémentaire, traditionnelle. On arrive à s'y retrouver en 2021 finalement ?
Non, justement. C'est pour ça qu'on va créer une société savante. C'est qu'aujourd'hui, il y a des confusions permanentes, à la fois par les journalistes, à la fois par les publicités et surtout sur Internet. On voit sur Internet absolument tout et tout peut guérir tout. Et finalement, il n'y a plus aucune rationalité. On est dans l'irrationalité totale. Donc des patients sont embarqués à refuser parfois des traitements conventionnels qui fonctionnent très bien pour entrer à l'utilisation de plantes qui sont absolument absurdes. Alors alors que potentiellement, il y a effectivement un plus un, encore une fois, peut faire deux, dans la mesure où on va avoir des indications précises, des protocoles et des doses précises.
Par exemple, donnez-nous des exemples de pratiques alternatives. Donc, par exemple, je ne sais pas qu'on peut trouver l'heure actuelle.
Vous pouvez avoir une pratique qui s'appelle l'iridiologie. Peut-être que vous connaissez, c'est une évaluation qui se fait de l'iris de l'œil et sur lequel, à travers la lecture de votre iris, on va potentiellement vous diagnostiquer un certain nombre de pathologies. On va pouvoir également, vous connaissez probablement l'astrologie, mais avoir la possibilité, en lisant les astres, d'avoir une pratique spécifique. On va avoir potentiellement aussi des thérapies manuelles tout à fait ésotériques. On est en Lozère, il y a beaucoup d'arbres, donc il y a une pratique qui s'appelle la sylvothérapie. La sylvothérapie est de choisir un arbre, d'y faire des bisous tout assez régulièrement et avoir l'idée qu'on va avoir finalement un effet thérapeutique. Donc vous voyez, on est là dans des médecines alternatives sans aucun fondement, qui sont parfois issues de pratiques qui peuvent être traditionnelles. Et effectivement, les saignées au XVIIIe siècle, au XVe siècle, pouvaient avoir un intérêt. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout la peine. De la même façon, il y avait une boisson alors qui était faite par une grande copine du roi, dont je ne me souviens plus le nom, qui s'appelle Diane de Poitiers et qui prenait une boisson en or parce que son médecin lui avait recommandé, pour éviter un certain nombre de troubles digestifs, de prendre cette boisson en or tous les soirs, donc une tisane, et elle en est morte à 62 ans. Et il y a plein de pratiques comme ça qui viennent d'intuition et sur lesquelles aujourd'hui, ce qu'on est en train de porter au sens collectif du terme, je ne suis pas le seul dans cette histoire, mais de cette société savante dont on va parler, mais au niveau international, en disant il y a de la science qui est capable de différencier quelle pratique, à quelle dose, de ces pratiques qui seront potentiellement soit culturelles, et chacun fera ce qu'il veut, mais potentiellement aussi informer de façon sérieuse que ces pratiques sont dangereuses et va avoir des interactions avec des traitements.
Ouais, c'est comme fou de se dire en 2021 qu'il y a des pratiques, c'est de charlatans hein, finalement,
oui.
Et qui marchent encore de nos jours et qui peuvent poser de graves problèmes de santé.
Absolument.
D'où ce besoin de communication, de travail autour de pédagogie.
Alors, vous avez raison, d'une part de communication et d'explication. C'est vrai que le mot intervention non médicamenteuse n'est peut-être pas bien choisi. Ça fait 10 ans qu'on se pose la question en disant quel est le bon terme. Le problème, c'est que c'est la Haute Autorité de Santé en 2011 qui a défini ce terme. Et ensuite, le ministère de la Santé a dit, désormais, il faut développer les interventions non médicamenteuses. Donc on ne peut pas faire autrement que de se conformer à ce que notre État dit, et au niveau international, c'est la même chose. Donc c'est pour ça qu'on parle d'INM, et que oui, la communication, mais de la recherche. La recherche, on va parler peut-être d'activité physique, mais ce n'est pas uniquement l'activité physique au sens large, mais c'est bien des pratiques très spécifiques, avec des doses, avec des contenus, avec des techniques, et avec un encadrement spécifique pour avoir des effets significatifs sur la santé.
Voilà, c'est l'objectif de cette association Plantes et Santé Gévaudan.
Exactement. L'idée, c'est vraiment d'encadrer, de ne pas faire n'importe quoi. Tout un chacun peut, quand il a un mal de gorge, se faire une tisane de thym, mais ce n'est pas du tout encadré. Nous, on souhaite qu'il y ait un développement de l'utilisation des plantes pour soigner, mais plutôt dans un aspect bien-être. Et du coup, les interventions non médicamenteuses sont le cadre pour pouvoir faire cette recherche de pertinence de l'utilisation des plantes dans un but de santé.
Qui fait partie de cette association ?
Alors, pour le coup, elle est très large, puisque la filière est large. Il y a les producteurs, donc les agriculteurs qui cultivent déjà des plantes à parfum aromatique et médicinal, et ceux qui souhaiteraient s'installer également. Les transformateurs, donc on a 3 transformateurs sur le territoire, que sont Essentiaga, La Sadève et Crodarum, donc chacun a ses spécificités. Et également les acteurs de santé, donc les établissements sanitaires. Le centre de rééducation fonctionnelle à Mont-Roda a particulièrement investi cette question-là. Le médico-social, des maisons d'accueil spécialisées se sont inscrites également. Les EHPAD sont en train d'arriver, mais également des libéraux. Je pense à un infirmier libéral sur le secteur de Saint-Chély.
On a beaucoup de plantes sur le département de la Lozère. On sait qu'on est quand même en altitude. Qui peuvent servir à cette médecine douce. Je ne sais pas si le terme est bon.
Alors c'est tout l'intérêt de la démarche aussi et de notre territoire. On a des conditions pédoclimatiques très diversifiées avec du méditerranéen, du montagnard. Donc on peut avoir une diversité. Par contre, il faut qu'on vérifie la pertinence de l'effet de chaque plante parce que selon son territoire, une plante ne va pas s'exprimer de la même manière. Donc il y a aussi des études qui sont à laisser pour vérifier si les plantes cultivées en Lozère ont un effet ou pas.
Alors on va revenir parler des INM dans un instant. Pour se maintenir en bonne santé, il y a bien évidemment le sport qui est essentiel, l'activité physique. Patrick Charon, donc, vous êtes au service départemental Jeunesse et Sport Lozère. C'est un service qui est déconcentré du ministère des Sports et qui est donc intégré au sein de l'éducation nationale, c'est ça hein ?
Oui, oui, c'est une réforme de l'État et en fin de compte, le ministère en charge des sports est passé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, donc de l'engagement des sports et de la jeunesse. Voilà. Mais les missions concernant le ministère en charge des sports n'ont pas changé.
D'accord. Justement, quelles sont ces missions ?
C'est développer la pratique sportive et les politiques sportives de l'État, que ce soit en matière de santé, en matière d'équipement, en matière de bien-être de la population, d'aider et soutenir le milieu associatif. Il y a aussi ce qu'on appelle nos missions régaliennes, le contrôle des associations, des équipements et des éducateurs sportifs afin que le code du sport soit respecté, c'est-à-dire un diplôme, une carte professionnelle. Voilà, ce qui est à mon sens très important et comme on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est alternatif, il y a des enjeux de sécurité et de santé publique, donc mais à un moment donné on a aussi un rôle de police administrative, on met le haut là et dans le code du sport il y a des amendes et des peines de prison qui sont définies, il n'y a pas que le code pénal ou la justice qui a des moyens de faire respecter les lois.
C'est un vaste chantier, cet ensemble de missions.
Finalement. Tout à fait. C'est pour ça que, au niveau des services, les uns les autres, on se spécialise sur les différentes thématiques qu'on peut avoir.
D'accord. C'est des missions annuelles, pluriannuelles. On vous donne des axes stratégiques sur plusieurs années ou sur une année, ça change. Comment ça se passe ?
On pourrait dire que c'est pluriannuel, parce que sur une année, on va dire, ok, je vais faire tel type d'action, puis après j'arrête. Non, il y a une continuité. C'est plutôt, on pourrait dire que c'est des plans pluriannuels. Nous, pour ce qui nous intéresse, on va plutôt aborder le vif du sujet, puisque nous intéresse, c'est sur le sport santé. Donc il y a un plan quinquennal, qui est renouvelé tous les 5 ans. C'est un plan national, qui est décliné en plan régional. Et au niveau du département, on a notre propre plan et notre base de travail avec de mobiliser les acteurs du sport santé et de pouvoir le développer. Et mon objectif, c'est qu'à la limite, qu'ils n'en aient plus besoin de moi et que ça puisse fonctionner de manière autonome. C'est tout l'intérêt de mon travail.
Mais quels ont été les axes décidés pour ce quinquennat ?
Tout à fait. Alors il y a donc un plan sport santé. Et sport santé, il y a 4 axes. Encourager la pratique sportive régulière à tout âge. Lutter contre la sédentarité. Un autre axe, c'est sensibiliser les médecins à la prescription d'activités physiques adaptées. Orienter, accompagner les patients atteints des maladies chroniques vers une offre adaptée. Accompagner et soutenir le développement des prises en charge d'activités physiques adaptées en mobilisant tous les financeurs possibles. Parce qu'actuellement, entre l'ARS et l'ANS, on cherche à avoir un développement privé du sport santé, qui est d'autres acteurs. Notre objectif en matière de financement, c'est que ça soit pris en charge, que la prescription à terme, c'est ce qu'on souhaiterait. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge le sport santé. La mutuelle du sport, la MGEN, il y a pas mal de choses comme ça. Et c'est l'intérêt, c'est de développer ce type de partenariat financier de manière à ce qu'on reconnaisse que le sport, c'est une thérapie non médicamenteuse et qui coûte moins cher que des médicaments. Un autre axe, ça concerne la surveillance médicale aussi des sportifs de haut niveau. C'est tout ce qui est simplement la lutte contre le dopage. Donc c'est la surveillance. Il y a aussi tout ce qui est la prévention des accidents sur la sécurité des pratiques sportives en montagne. Le plan aisance aquatique en fait partie. Et un dernier axe, c'est ce qu'on pourrait appeler une veille sanitaire, c'est-à-dire auprès des fédérations. Dès qu'il y a un accident grave en sport, on doit être averti dans les 48 heures de manière à ce qu'on puisse réagir de manière à pouvoir dire « non, là cette pratique finalement elle est dangereuse ». Et qu'on puisse interdire. Actuellement, il y a un sujet, c'est concernant la commotion cérébrale au niveau du rugby. Comment on peut améliorer la sécurité pour éviter des problèmes ? Parce que le sport, ça doit rester un plaisir. Et il y a des pratiques qui font que ça peut devenir dangereux.
Vous expliquiez sensibiliser les médecins. On avait le docteur Minet qui était dans le plateau radio juste avant et qui expliquait que parfois l'ordonnance s'arrêtait à faire du sport et que ses patients disaient « mais je n'ai pas de médicaments ». Ben non, il n'y a pas de médicaments, vous pouvez boire de l'eau pour faire passer un rhume, vous pouvez faire du sport pour être plus en forme. Et voilà, ça reste encore un mal français, cet attrait des médicaments, des antibiotiques, de tout ça.
Ouais, c'est vous dites sport et moi je dis activité physique parce que on va considérer qu'un sport l'objectif c'est de faire une performance, d'accord? Alors que l'activité physique c'est pas l'objectif, c'est pas de faire une performance, c'est d'avoir un bon état de santé mentale et sociale. D'accord, c'est la définition de l'OMS de l'état de santé. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est prévenir des maladies, éviter la récidive sur certaines maladies. Il y a des études, moi je suis pas médecin ni chercheur, donc je vais pas développer sur ce sujet-là, mais des études sont faites et qui prouvent que le bienfait d'activité physique, et comme on l'a dit tout à l'heure dans la conférence, c'est vrai que c'est une pratique sécurisée et permet au médecin de pouvoir prescrire. Parce que quand le médecin signe une ordonnance, il s'engage. Donc afin d'éviter tout problème, cette prescription-là, avec auprès des professionnels, elle permet d'avoir une pratique sécurisée.
L'activité physique, une thérapie non médicamenteuse, on est d'accord ?
On est d'accord. En 2019, l'INSERM a publié un document de 800 pages, auquel j'ai eu la chance de collaborer, qui explique que non seulement des programmes d'activité physique peuvent avoir des effets de soins, de réduction de symptômes d'un certain nombre de pathologies chroniques, les BPCO, les cardiopathies, etc., etc. Et on peut aussi avoir des pratiques d'activité physique adaptées qui vont avoir des effets curatifs. Et je crois qu'il y a un vrai changement en disant si on a une dose suffisante, pertinente et médicalement encadrée, on va pouvoir guérir des pathologies. Exemple, une dépression qui est une dépression légère avec un programme d'activité physique de 5 fois par semaine, avoir un effet thérapeutique, ça veut dire qu'on guérit un certain nombre de patients qui ont un trop dépressif. Et il y a des données issues d'essais cliniques, exactement comme on l'a fait dans le médicament, sur lequel on a fait un essai randomisé contrôlé et plusieurs essais randomisés contrôlés qui témoignent de l'efficacité de ces pratiques. Et je crois que c'est une véritable révolution dans la façon dont on va prescrire, encore une fois, un programme d'activité physique ou d'autres interventions non médicamenteuses.
J'ai vu dans votre présentation de tout à l'heure, vous parliez également, comme M. Charron, d'améliorer l'adhésion des professionnels de santé aux recommandations sur les thérapeutiques non médicamenteuses, améliorer également l'information des professionnels de santé et des patients sur les thérapeutiques non médicamenteuses. C'est un véritable enjeu, ça.
C'est un enjeu majeur à cause notamment d'Internet. Internet produit le meilleur et le pire, et donc la désinformation est telle qu'aujourd'hui, pour donner un exemple très concret, je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier, la pharmacie reçoit 87 appels par mois parce que les personnes prennent une thérapie orale, donc une chimiothérapie orale, finalement, le patient ou la famille appelle pour savoir si cette plante est compatible ou pas avec la chimiothérapie. Et en fait, il y a plein de plantes qui peuvent avoir des effets tout à fait toxiques, c'est-à-dire réduire l'effet d'une chimiothérapie, voire l'annihiler totalement. Et donc, tout l'enjeu est de savoir quelles sont les bonnes plantes, quelles sont les choses à ne pas faire pendant les traitements ou après les traitements. Et le problème, c'est que les patients, la seule source d'information, c'est Internet. Et donc, ils vont sur Internet et il y a forcément quelqu'un qui va sur YouTube ou sur un site web vendre son produit, vendre sa plante, vendre son champignon, vendre son minerai, vendre sa thérapie manuelle ou son activité physique. Hein. Et avec vraiment des risques tout à fait majeurs. Ou le jeûne, en ce moment, il y a aussi la question du jeûne intermittent en disant, pendant une chimiothérapie, il faut absolument faire du jeûne. Mais c'est du délire total. Et donc là, on est en train de effectivement avoir un besoin qui émerge de cette désinformation issue d'Internet qui mérite aujourd'hui d'avoir, encore une fois, une pratique scientifique correcte et une information que souvent le patient n'a pas.
Oui, j'ai vu un reportage sur Arte dernièrement sur ce jeûne pendant la chimiothérapie qui partait de Russie des années 1940.
C'est ça.
Oui, c'est
ça. Sauf que c'est plus du tout les mêmes chimiothérapies, sauf que c'est plus du tout les mêmes traitements. Les chimiothérapies des années 50 étaient par intraveineuse, il y avait uniquement une chimiothérapie. Aujourd'hui, il y a des associations de chimiothérapie et donc elles sont consommées par voie orale, d'accord ? Donc c'est comme une pilule. Mais la question, c'est qu'on n'est plus du tout sur les mêmes effets. Et donc les immunothérapies qui arrivent font avoir des effets aussi conséquents. Et donc, voilà. Et quand on parlait des plantes tout à l'heure, c'est 35 000 plantes. médicinales, 35 000 plantes. Mais ce n'est pas uniquement des plantes médicinales, mais c'est aussi la différence entre la fleur, la feuille et la tige. Ce n'est pas du tout les mêmes effets. Donc vous imaginez la conséquence du travail qu'il y a à faire en amont pour dire quelle plante, comment, à quelle dose et pour quel patient. Et donc il y a effectivement un suivi important.
Cette filière, justement, elle va d'en amont de récupérer ces plantes, les produire, les commercialiser, jusqu'à des médecins qui proposent des ordonnances de non médicamenteuses avec ces plantes.
Exactement. C'est vraiment le souhait de la filière, en tout cas, que ça soit, il y ait un contrôle médical et que la pratique de l'aromathérapie en particulier ne se fasse que sur prescription avec un protocole de soins. Il y a quelques thématiques qui ont été retenues par les médecins qui participent. La lutte contre la douleur, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tous les établissements. Mais après, on peut avoir des pratiques un petit peu plus spécifiques, à des besoins spécifiques. Je pense par exemple aux problèmes de transit des personnes qui sont en fauteuil roulant. C'est quelque chose de très répandu et plutôt que de prendre un médicament, on essaye de voir si l'aromathérapie n'a pas un effet, mais tout ça sous contrôle médical.
Qui prescrit ces soins ?
Alors, c'est une prescription des médecins, mais ils ne devraient pas le faire au final. Aujourd'hui, en tout cas, le cadre réglementaire n'est pas suffisamment clair pour dire est-ce que c'est vraiment de la thérapeutique ou des interventions non médicamenteuses. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'une prescription d'un médecin.
Oui, tout l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des parcours de soins qui soient mieux établis. Il y a suffisamment de données scientifiques, par exemple, pour l'aromathérapie. Je vais parler des troubles du sommeil sur lesquels il y a de l'huile essentielle spécifique de lavande qui améliore la qualité du sommeil chez certains patients. Et effectivement, là, la donnée scientifique existe. Donc, il suffirait que le médecin s'en saisisse et avoir là donc un parcours avec des informations de prescription et que cette prescription se fasse en complément ou pas d'autres traitements. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de faire ou de sensibiliser, et c'est l'Académie de médecine qui a démarré en 2013 sur l'idée qu'il faut sensibiliser le médecin en disant vous avez un nouvel arsenal thérapeutique complet, vous aviez des dispositifs médicaux, des pacemakers, etc., à pouvoir implanter dans le corps. Vous aviez également des médicaments, vous aviez des chirurgies, vous aviez de la radiothérapie. Eh bien, aujourd'hui, il y a un nouveau pan de stratégies thérapeutiques qui ont fait leurs preuves. Et en fonction de tel ou tel patient, vous avez la possibilité de pouvoir combiner ces traitements et en rajoutant finalement ce nouveau panier qui a des bénéfices tout à fait significatifs. Et tout l'enjeu, c'est encore une fois d'arriver à ce que, d'une part, ils l'entendent, et d'autre part, que le modèle économique qui va être associé soit pertinent. Parce que pour l'instant, les modes de remboursement, ils sont souvent rares. Les kinésithérapeutes peuvent être remboursés pour certaines interventions non médicamenteuses. Les psychologues, actuellement, il y a une expérimentation assez remarquable qui est en train de se faire de généralisation de la thérapie cognitivo-comportementale pour les personnes qui ont un trouble dépressif. Vous avez également des pratiques d'activité physique, notamment sur l'après-cancer, sur lequel il y a des mutuelles qui commencent à rembourser à 100% les programmes d'activité physique qui peuvent être associé à du suivi diététique pour ces patients, mais ça reste encore de façon sporadique. Il n'y a pas encore un tuyau bien plus établi pour que tout le monde puisse en profiter. Et c'est évidemment une différence sociale tout à fait terrible parce que les plus riches en profitent en ce moment.
On est en retard par rapport à d'autres pays ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. On est en retard par rapport au Japon, par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Suisse. Ensuite, des pays ont beaucoup avancé, comme les États-Unis, où effectivement les modèles économiques ont été associés. Et ça va beaucoup plus vite. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on le voit à travers la plateforme universitaire qu'on a montée en 2010, c'est vraiment un engouement pour cette pratique et que finalement les mutuelles sont en train d'y s'intéresser de façon plus importante, que l'assurance maladie, notamment pour des thématiques particulières qui l'intéressent, je pense au bien vieillir, sur le thème du bien vieillir, là tout d'un coup l'intervention non médicamenteuse devient un élément central, de la même façon que pour la prévention de maladies chroniques, lorsque les personnes sont en maladie chronique, éviter une hospitalisation, c'est parfois éviter 40 000 euros. Donc c'est des coûts très conséquents et sur lesquels les interventions non médicamenteuses peuvent retarder une hospitalisation ou réduire le temps d'hospitalisation. Et il y a des pathologies particulières qui ont fait leur preuve vis-à-vis de ça.
Pour vous laisser la parole avant que de la donner aux autres, un mot sur donc, la société que vous venez de créer, NPIS.
Donc NPIS pour Non-Pharmacological Intervention Society, donc la société savante des interventions non médicamenteuses. Ce n'est pas une société économique, c'est une association loi 1901 d'intérêt général. L'idée, c'est tout simplement de faire accélérer la recherche. Depuis 10 ans, on travaille dans une plateforme universitaire collaborative qui s'appelait la plateforme CEPS, mais qui était universitaire. Et donc on avait des contacts dans le monde entier en disant on peut faire avancer le sujet, mais ça restait quelque chose, je dirais, d'universitaire. Et l'idée de cette société savante, c'est d'associer des praticiens, parce qu'il y a des praticiens qui sont volontaires, je pense aux ostéopathes par exemple. Il y a des ostéopathes qui veulent faire des études rigoureuses pour montrer l'efficacité de telle ou telle pratique, de tel ou tel protocole d'ostéopathie, fonctionnel par exemple, contre la lombalgie. Et donc cette société savante va accélérer la recherche d'une part, d'autre part, et vous l'aviez très bien dit au départ, peut-être d'améliorer l'information face à la montagne de désinformation nationale, européenne et mondiale, donc c'est aussi un élément important. Et un autre élément pour nous qui nous semble tout à fait important, c'est la formation des praticiens aux pratiques sur les INM, c'est-à-dire d'avoir l'idée de ne pas travailler uniquement que dans sa discipline, mais de voir en quoi et comment un kiné a peut-être besoin de travailler avec un spécialiste de diététique, qui a peut-être besoin de travailler avec un éducateur sportif et qui a peut-être besoin de travailler également avec un psychologue. Donc comment ces notions de transversalité, donc de professionnel qui va travailler ensemble sur une problématique de prise en charge sur le long terme, va potentiellement changer les choses. Donc cette société savante va aussi travailler à des recommandations, donc de bonnes pratiques avec des référentiels identifiés de bonnes pratiques sur ces interventions non médicamenteuses et sur leur prescription et sur leur suivi.
Voilà, et pour faire bouger les lignes, quoi de mieux que d'aller faire un colloque au ministère de la Santé, c'est ce que vous allez faire le 1er décembre prochain, puis un congrès international, c'est ça, multithématique sur les INM à Toulouse.
Oui, du 31 mars au 1er avril prochain à Toulouse.
D'accord, merci. Yves Pérouse, quand est-ce qu'on va pouvoir conclure cette filière? Quand est-ce qu'elle va être prête à fonctionner, si elle n'est pas déjà?
Alors, elle fonctionne déjà. Il y a déjà une vingtaine d'agriculteurs dans la filière. Il y a une pépinière de plants qui est en train de se mettre en place pour avoir des plants de qualité aussi, puisqu'il n'y avait pas d'acteurs économiques sur le territoire, porté par l'entreprise adaptée du Gévaudan, qui fait donc travailler des personnes en situation de handicap. Il y a une dimension sociale aussi dans la filière qui est assez importante, et en lien avec les jardins de Cocagne, qui ont déjà une expérience de maraîchage et veulent développer la culture des plantes médicinales. L'aspect aval, la filière d'aval, donc les établissements, certains sont déjà engagés, mais pour le moment, ça reste assez limité. L'association a 6 mois. Tous les acteurs du territoire sont les bienvenus. Et s'ils veulent rentrer dans ces démarches et en partenariat aussi avec un projet d'étude pour vérifier la pertinence de tout ça, ils sont les bienvenus. Il suffit de nous contacter. Et plus la filière sera grande, plus on pourra vérifier et enclencher une dynamique de territoire.
D'accord. Pour vous contacter, l'association, vous avez un mail, quelque chose en tête?
Une adresse mail, le mien, y.perouse@claudini.asso.fr.
D'accord, merci. On va vous laisser le mot de fin. Monsieur Charron, il faut faire de l'activité sportive, pas du sport, de l'activité sportive physique.
Bien, je vois que ça fonctionne, ça commence à marcher, on va y arriver. Ouais, bon, là oui, on essaye de monter actuellement, ce qui est intéressant c'est d'un réseau et puis de pouvoir en parler à la radio auprès de vous, c'est que ça puisse se développer en Lozère et puis qu'on puisse monter un réseau entre les différents acteurs. Donc je pourrais appeler les têtes de réseau, l'agence régionale de santé, le service départemental jeunesse et sport et le comité départemental olympique et sportif, et nous on est au service des associations sportives et des médecins afin de prescrire de l'activité physique, afin que tout le monde soit en bonne santé et d'éviter les maladies et les médicaments.
Voilà, et les médecins ont revu à la baisse, c'est 4000 pas par jour pour rester en forme, tous les jours par contre.
Nous, on va, ça c'est, comment dire, c'est un but concret. Pour moi, c'est une activité physique, c'est 30 minutes minimum par jour chez l'adulte et 60 minutes chez l'enfant. Donc 4000 pas, est-ce que tout le monde a envie de faire 4000 pas? Est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? On ne va pas se limiter aux 4000 pas.
D'accord. 60 minutes pour les enfants par jour.
C'est ça. Tout à fait.
Et 30 minutes pour les adultes.
Et 30 minutes pour les adultes. Et bien voilà, j'espère que tout le monde a bien ses chiffres en tête. Merci messieurs d'être venus au micro de 48FM. On poursuit cette journée, bien sûr. On aura un nouveau plateau radio à 13h45 et la journée se poursuit. Vous pouvez venir sur ce village avec de nombreux stands et également aux conférences. D'ailleurs, vous en avez une d'ici à un quart d'heure, donc je vais vous laisser y aller, messieurs. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous.
Merci à vous.